Bonjour, c'est Renaud Dely, vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
C'est un viol involontaire. J'ai violé à contre-cœur. Ces paroles d'accusé du procès de Mazan s'affichent sur les murs d'Avignon, à quelques pas du tribunal, où Gisèle Pellicot assiste comme chaque jour au procès de son ex-mari et de 50 hommes accusés de l'avoir violée alors qu'elle était droguée. L'accusation a conclu hier 3 jours de réquisitoire en réclamant 20 ans de réclusion pour Dominique Pellicot, entre 4 et 18 ans, pour les hommes qu'il recrutait sur Internet.
L'absence de consentement ne pouvait être ignorée des accusés. On ne peut plus, en 2024, dire que, puisqu'elle n'a rien dit, elle était d'accord. C'est d'un autre âge.
Le ministère public réfute toute possibilité d'un consentement implicite ou d'un consentement par procuration donné par le mari, contrairement aux arguments de la défense.
Ce ne sont tout sauf des violeurs et ils se sont retrouvés là dans des circonstances particulières.
À partir du moment où on arrive à rapporter la preuve du fait que la personne qui a commis les actes de viol avait conscience de commettre des actes de viol, il y a viol. Sinon, il n'y a pas viol.
La question du consentement est au cœur du procès depuis des semaines. Des associations et des parlementaires souhaitent même que cette notion figure noir sur blanc dans le code pénal.
Sortir de l'implicite, c'est aussi en finir avec une sorte de présomption de consentement. La loi doit permettre de comprendre que nos corps, singulièrement nos corps de femmes, ne sont pas à la libre disposition d'autrui et qu'il faut s'enquérir du consentement de son ou de sa partenaire.
Alors serait-ce une avancée ou un piège? Faut-il inscrire le consentement dans la loi? Le droit français doit-il évoluer ou est-il suffisamment protecteur?
Eh bien, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions ensemble. Bienvenue à tous les trois. Merci de nous avoir rejoints. À mes côtés, Fanny Collin.
Bonjour.
Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Selon vous, inscrire le consentement dans la loi part d'une bonne intention, dites-vous, mais les conséquences s'annoncent catastrophiques aussi bien pour les victimes que pour les accusés. Par ailleurs, vous dites que cette notion de consentement est déjà discutée dans les tribunaux. À vos côtés, bonsoir Magali Lafourcade.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et selon vous, le viol est aujourd'hui le seul crime avec un taux aussi élevé de classement sans suite des plaintes. C'est une des raisons pour lesquelles il faut mettre, selon vous, justement, le consentement dans la loi. Et c'est aussi, selon vous, un des enseignements du procès de Mazan. Et puis à vos côtés, bonsoir Denis Salas. Vous êtes magistrat, président de l'Association française pour l'histoire de la justice. Et vous avez publié « Le déni du viol, essai de justice narrative » aux éditions Michalon. Selon vous, si le consentement avait déjà été dans la loi, en fait, ça n'aurait pas changé grand-chose au procès de Mazan. Mais dans d'autres cas, effectivement, cela peut s'avérer utile, à condition toutefois de faire très attention à son utilisation. Tout de suite, Marion, pour ouvrir le débat, vous avez une une du jour.
Oui, une une qui est celle du magazine Vogue en Allemagne, parue lundi dernier, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous la voyez, c'est donc Gisèle Pellicot sur fond rouge avec ce titre « No more shame », plus de honte. Alors, le magazine Vogue l'a posté sur Instagram. Il salue le courage de cette femme qui a refusé le huis clos de son procès. Et cette une, elle a fait littéralement le tour des réseaux sociaux, ce qui illustre évidemment l'écho rencontré par le procès de Mazan, notamment chez les jeunes. Denis Salas, ce procès hors norme, est-ce que c'est un tournant dans la lutte contre le viol ?
D'abord, c'est un procès très spectaculaire, parce qu'il est suivi par la presse mondiale. Il oppose effectivement, et c'est assez rare de ce point de vue-là, une masse d'individus qui sont 51 accusés qui sont impliqués dans cette affaire et une victime unique. Encore que, on verra que peut-être dans le procès, il y a d'autres victimes qu'on ne voit pas forcément dans la famille Pellicot. Mais surtout, c'est un procès qui est mis au premier plan. Je pense que c'est là où il faut qu'on puisse effectivement s'interroger. La question du consentement de la victime, qui jusque-là était, si vous voulez, en creux dans la loi pénale, masqué derrière les concepts de violence, de menace, de surprise, notamment, et qui aujourd'hui apparaît au premier plan et qui est l'exigence majeure qui est posée vis-à-vis des accusés.
On va venir dans un instant à ce débat autour du consentement, bien sûr, qui est au cœur de nos échanges et donc au cœur de ce procès de Mazan. Mais d'abord, Magali Lafourcade, quand on fait un bilan aujourd'hui, et vous le soulignez, le viol, les plaintes pour viol sont classées à plus de 90%, 94%.
Oui.
À quoi ça tient selon vous? Et est-ce que ça tient à la définition de la loi, justement, aujourd'hui, à ses insuffisances?
Alors, clairement, oui. C'est-à-dire que les procureurs, quand ils classent sans suite, ils doivent donner un motif. Mmh. Et le motif qui est le plus souvent utilisé, c'est le classement 21, qui veut dire classement pour infraction insuffisamment caractérisée. Ça veut dire que la caractérisation vis-à-vis des éléments constitutifs posés par la loi ne permet pas de couvrir l'entièreté des situations de rapport sexuel non consenti. Et c'est pour ça que les Nations Unies, comme le Conseil de l'Europe, qui donc analyse la façon dont la France respecte ses engagements en matière de droits des femmes, ont demandé très clairement à la France de changer sa définition pour pouvoir couvrir toutes les situations de rapport sexuel non consenti et de placer le consentement libre au centre de sa définition.
Donc pour vous, c'est bien lié au texte aujourd'hui à ces insuffisances, ce n'est pas une absence d'éléments
Non, c'est vraiment le texte qui est d'interprétation stricte et qui verrouille complètement, et j'ajoute qu'en plus, il se centralise sur la victime, ce qui fait que ça fait vivre un parcours pénal absolument pénible pour les victimes, Madame Pellicot l'a rappelé, et du coup, on a 9 femmes sur 10 qui ne déposent pas plainte. Donc vous voyez le niveau d'impunité dans le pays.
Fanny Collin, est-ce que vous partagez cette analyse ?
Alors, pas du tout. Pas du tout. Je crois que la problématique de la caractérisation du viol aujourd'hui, c'est surtout le manque de preuves. La notion de consentement n'y changera rien, puisque la volonté, encore une fois, ça part effectivement d'une bonne intention d'intégrer cette notion de consentement dans la définition du viol. Elle ne peut pas baisser l'exigence probatoire, parce que celui qu'on juge, c'est l'auteur. Et donc c'est de ce point de vue-là qu'il faut se placer. On n'est pas en train de parler d'une définition du viol quelconque. On parle de la définition d'un crime, d'une infraction pénale.
Justement, il faut le rappeler, cette définition du viol, elle est très précise, elle est dans le code pénal depuis 1980. C'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, par violence, contrainte, menace ou surprise. Donc c'est 4 critères. Cette définition, Denis Salas, elle ne permet pas de traiter tous les cas de viol ?
D'abord, elle est ancienne, contrairement à ce qu'on peut penser immédiatement. Elle s'est élaborée progressivement dans l'histoire de l'écriture du viol depuis le 19e siècle. Par exemple, la question de la surprise est apparue au milieu du 19e siècle. C'est par exemple, si vous voulez, l'individu qui s'introduit dans le lit conjugal à la place du mari. Bon, effet de surprise.
C'est ce qui pourrait être le cas dans l'affaire Pellicot, justement.
À une échelle beaucoup plus vaste. Mais voilà, donc c'est assez ancien. Et c'est ensuite qu'on a introduit la menace. Et surtout, à un moment donné, je dirais au cours du XXe siècle, sans préciser, mais la question de la violence intime, si vous voulez, du traumatisme subi par la victime est passée au premier plan. Et les paroles, à ce moment-là, la parole a pu se libérer et on a pu regarder le viol différemment par rapport à d'autres regards qui se penchaient sur l'écho général que ça pouvait susciter.
Alors, faut-il ou pas réformer la loi ? Anna, en tout cas, nos voisins espagnols, eux, ont fait bouger la loi après un procès qui concernait justement un viol collectif, un procès qui a secoué tout le pays.
Ouais, ce procès, c'est l'affaire Manada. C'est la meute en français. C'est le viol collectif filmé d'une jeune fille de 18 ans par 5 hommes majeurs à Pamplune en 2016. Alors les accusés ont bien été condamnés à 9 ans de prison, ça c'était en 2018, mais pas pour viol, seulement pour abus sexuels, parce que l'intimidation et la violence n'avaient pas pu être suffisamment démontrées. Ce jugement, il a provoqué des manifestations incroyables dans tout le pays. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue. Résultat, en 2019, les faits ont été requalifiés en viol et les accusés condamnés à 15 ans de prison. Mais surtout, après cela, le gouvernement a modifié le code pénal. En octobre 2022, la loi Solo Si Es Si, qui veut dire « seul un oui est un oui » en français, cette loi, elle est entrée en vigueur en Espagne et le viol est désormais défini aujourd'hui comme un rapport sexuel sans consentement. C'est cette même définition que l'on retrouve dans la Convention d'Istanbul qui lutte contre les violences faites aux femmes, convention qui a été ratifiée par de nombreux pays en Europe, dont la France, il y a 10 ans, donc en 2014. Et depuis, plusieurs pays européens ont fait évoluer leur législation. C'est le cas de la Finlande, du Danemark ou de la Belgique, en y inscrivant donc la notion de consentement. Fanny Collin, à partir du moment où la France a ratifié cette convention, est-ce qu'elle n'est pas obligée de modifier sa législation ?
Alors, elle n'est pas obligée de le faire et surtout, elle ne peut pas s'autoriser à la modifier dans un sens qui entraînerait de nouvelles dérives. Parce que, encore une fois, si vous placez le consentement, la notion de consentement dans la définition de l'infraction pénale de viol, vous reportez en réalité l'analyse du comportement, non pas sur celle de l'auteur, on ne va plus analyser le comportement de l'auteur, on va analyser le comportement, l'attitude de celle ou de celui qui se plaint. Pour essayer d'y débusquer, donc on va le scannériser, ce comportement, donc on va mettre le plaignant ou la plaignante au centre du procès, mais de la plus mauvaise manière, pour analyser son comportement, son attitude, ses paroles, et pour voir si on peut y retrouver ce consentement. Et l'autre risque, d'un point de vue très pratique, c'est que cette modification législative pourrait entraîner de la part des justiciables la nécessité de se préconstituer la preuve de ce consentement, puisque un consentement volontaire, on pourrait se dire, ben, on va l'acter. Donc comment est-ce qu'on acte, comment on se préconstitue cette preuve ?
C'est-à-dire de devoir démontrer leur innocence, alors que normalement la justice doit démontrer la culpabilité.
Absolument, c'est à l'accusation de démontrer la culpabilité. Mais si on passe par des écrits, des vidéos, des audios, on reviendra toujours au même problème, parce que d'abord on peut toujours changer d'avis, même après avoir signé un papier qui donne son acceptation. Et à partir du moment où on sait que le consentement peut être extorqué, et c'est ça la définition du viol, surprendre le consentement, le contraindre, on peut tout aussi bien extorquer un écrit ou autre chose. Et là, le risque, et j'insiste, c'est que la signature de cet écrit, il va avoir, pour celui qui voudrait se plaindre, un effet dissuasif. Parce que c'est déjà difficile, on l'a rappelé, le parcours judiciaire, mais là, on va se dire, j'ai signé le papier, je ne vais pas déposer plainte.
Magali Lafourcade, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Fanny Collin ?
C'est-à-dire que là, je crois quand même qu'il faut dire que vous êtes une praticienne qui défend des auteurs. Voilà, quand on pose ça, on voit aussi d'où vous parlez. Moi, j'ai une expérience de juge d'instruction, et puis surtout, j'ai aussi une expérience de ce que ça veut dire quand on ratifie un instrument juridique aussi contraignant que la Convention d'Istanbul. On est rappelé à nos obligations, aux standards internationaux qui disent qu'il faut mettre le consentement. Et vous citiez tout à l'heure, vous aviez bien fait, les pays européens qui ont changé leur loi récemment. Mais en fait, quand on regarde le panorama en Europe, il y a très peu de pays qui ne font pas ça. Et du coup, on a du recul. Moi, je pense qu'il faut être très pragmatique. Ce qui fonctionne pour faire reculer un phénomène infractionnel, c'est la certitude d'être pris. Ce n'est pas de risquer une peine très lourde, sinon la peine de mort fonctionnerait. Ça ne fonctionne pas. Ce qui compte, c'est de pouvoir être sûr d'être pris. Donc, il faut faire une campagne de prévention, une campagne de répression qui fonctionne ensemble. On n'a jamais eu de grandes campagnes comme les campagnes de prévention routière, par exemple.
Et là, on parle du texte, là. on parle du contenu du texte.
Sur le texte, il faut non seulement définir ce que c'est que le consentement, il faut le mettre. Aujourd'hui, le texte, il permet, tout à l'heure, il était affiché, l'optimisation sexuelle. Si vous ne passez pas par les quatre critères, ce n'est pas un viol aux yeux de la loi.
Mais ça peut pas se retourner, y compris contre les victimes.
Mais
justement.
Non, parce qu'aujourd'hui, ça se retourne déjà contre les victimes. Elles ont le droit de changer d'avis. Ça se retourne déjà contre elles. Elles sont au centre de la difficulté. L'idée, c'est de se placer du point de vue de l'auteur et de faire de l'enquête comme on fait de l'enquête dans les autres crimes. C'est-à-dire en faisant du faisceau d'indices et en recoupant les informations.
D'accord, mais le problème, c'est que vous êtes dans un débat contradictoire où il y a deux parties en présence. Il y a la défense et il y a les parties civiles. Et le problème, c'est qu'effectivement, même si vous voulez effectivement imputer à un auteur un comportement infractionnel, la défense va effectivement tenter de démontrer que c'est du côté de la victime qu'il faut regarder. Donc il faut absolument avoir, à mon avis, comme ligne de réflexion, que le consentement doit être, mais vous l'avez dit d'une certaine manière, doit être imputé du côté de l'auteur.
Mais parce que vous êtes c'est pour, pas... mais avec des réserves, en fait,
oui,
ça,
oui,
pour cette inscription dans la loi.
On le voit bien, même dans le cas des viols de Mazan, même si on avait une victime qui manifestement était non consentante.
Ça aurait changé quelque chose.
Non, mais elle était endormie, elle était... Mais malgré tout, la défense a voulu démontrer en montrant des vidéos que parce qu'elle avait levé un petit doigt ou esquissé un geste, elle était dans un jeu libertin qui était la thèse que défendait la défense.
Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Donc si le consentement avait été inscrit dans la loi, est-ce que ça aurait changé quelque chose au déroulement du procès de Mazan, selon vous ?
Écoutez, là, de toute manière, le procès de Mazan s'est très rapidement centré sur la question du consentement. Mais du consentement, du défaut de consentement ou de la méconnaissance du consentement par les auteurs. Simplement un mot, l'argumentation du parquet, c'était de dire, vous, monsieur, vous dites que vous avez surpris le consentement, que ce n'était pas intentionnel. Vous avez fait 50 km pour aller à Mazan, vous avez... cliquez sur un site coco.fr, vous avez effectivement déshabillé, vous êtes rentré. Ouais. Donc les actes que vous avez posés traduisent votre méconnaissance totale du consentement de la victime. Et c'est là où la démonstration a été faite de leur culpabilité et des peines qui ont été requises.
Ça aurait changé quelque chose ?
Non, je pense que l'intégration de la notion du consentement dans le texte de loi n'aurait rien changé dans le procès Mazan, qui est d'ailleurs remarquable justement par l'accumulation des preuves qui existent. Et c'est vrai que si la notion de consentement n'est pas expressément dans le texte, il est implicite, puisque ce qui est surpris, c'est le consentement, ce qui est contraint, c'est le consentement, ce qui est forcé, c'est le consentement. Donc déjà, dans les tribunaux, et là, pour le coup, j'ai une pratique judiciaire ancienne et très régulière, on ne parle que de ça, déjà, du consentement.
Magali Lafourcade, vous disiez tout à l'heure, oui, ça aurait changé quelque chose.
Oui, et je voudrais juste prendre un tout petit exemple qui est que les Belges ont changé leur législation récemment, en 2022, ils ont quasiment le même système juridique que nous. Dans la définition qu'ils donnent du consentement, en tout état de cause, il n'y a pas de consentement lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d'une victime inconsciente ou endormie. Ça clôt le débat Amazon. Voilà.
Mais la jurisprudence française le dit déjà.
Ça clôt la jurisprudence, elle n'est pas harmonisée et c'est ce qui est problématique puisque chacun des critères, la surprise,
c'est
la contrainte, la menace.
C'est en dessous de la loi, en fait.
Voilà. Et de toute façon, le problème, c'est, enfin, on l'a vu, si la jurisprudence suffisait, on n'aurait pas pu avoir comme ligne de défense qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'elle n'était pas consentante alors qu'ils savaient qu'elle dormait. À partir du moment où il n'y a pas consentement possible et que c'est défini un rapport sexuel, un viol est un rapport sexuel non consenti, vous empêchez d'avoir un débat aussi nauséabond autour de savoir s'ils se rendaient vraiment compte qu'elle n'était pas consentante alors qu'ils se rendaient compte qu'elle dormait ou qu'elle était inconsciente.
Denis Solas ?
Non, je crois que je suis tout à fait sur cette question-là. Elle est tout à fait centrale. Elle est apparue au procès de Mazan. Alors, c'est vrai que la loi...
Même si la loi avait changé, ça n'aurait pas empêché les avocats de la défense d'utiliser
exactement,
la stratégie.
Exactement,
utilisé,
exactement.
Qu'ils soient justes
et
faux,
même là, le non-consentement était pratiquement évident. Ouais. Ils ont tout de même, effectivement, tenté de démontrer la preuve contraire, et notamment avec cette thèse du consentement par procuration, puisque c'était le mari qui était censé donner la procuration, qui a été démontée ensuite par le parquet.
Enfin, quel que soit le texte, chacun comprend bien que le viol par imprudence, la théorie du consentement par procuration, sans évidemment préjuger de l'addition, aucune chance d'aboutir avec le texte de loi actuel.
On peut avoir donné son consentement sous contrainte, peut-être, Fanny Collin ?
C'est possible.
Alors, justement, c'est une question majeure, ça, parce qu'effectivement, il peut y avoir des consentements inclus dans des rapports inégalitaires dans une relation individuelle et qui peuvent être extorqués ou forcés par cette inégalité structurelle. La féministe Catherine McKinnon a une argumentation très, très intéressante là-dessus. Elle montre, par exemple, que la prostitution et la pornographie sont pleines de oui, c'est-à-dire de consentement contractualisé. Mmh. Et ces consentements contractualisés peuvent effectivement porter atteinte à la femme elle-même qui a été prise au piège d'une relation inégalitaire.
C'est pour ça qu'il faut un consentement libre.
Voilà, la jurisprudence des tribunaux qui appliquent la loi et la font évoluer par les décisions qu'ils rendent, on tient compte puisque dans le texte il est écrit la contrainte, mais on sait depuis longtemps que la contrainte, y compris morale,
Et très concrètement, comment faudrait-il le formaliser si on change le texte, Magali Lafourcade ? Comment le formaliser très concrètement ? Est-ce qu'il faut qu'il soit écrit ?
On pose le principe de ce que c'est qu'un viol, un rapport sexuel non consenti, de façon à ce qu'on n'ait plus d'optimisation sexuelle aujourd'hui, mais qu'on ait le principe. Ensuite, on élargit les critères. Aujourd'hui, c'est que violence, menace, contrainte ou surprise. Il faut absolument mettre un
élargissement. Faut-il le formaliser pour pouvoir
définir
produire un élément en cas de plainte, justement, devant un tribunal. Est-ce qu'il faut que les intéressés le formalisent d'une façon ou d'une autre ?
Alors, non, d'accord, je comprends votre question. En fait, la question, c'est de se concentrer sur le comportement de monsieur. Aujourd'hui, on se centre sur madame. Et pour ça, il faut faire des enquêtes comme on le fait dans les autres dossiers criminels, c'est-à-dire des enquêtes fouillées, où on va interroger les ex de monsieur. Aujourd'hui, il y a plein de classements sans suite, sans audition de monsieur. C'est juste sur la base des auditions de madame. Il faut aller voir ce qu'il y a dans son ordinateur. S'il a de la pornographie qui ressemble beaucoup à la scène imposée à madame, c'est intéressant de voir qu'il y a des schémas qui se retrouvent. Moi, je suis convaincue de ma pratique professionnelle que souvent, il y a des parcours qui se raffinent, des parcours d'impunité avec de la ruse qui devient des stratégies de plus en plus fines. Et donc, quand on creuse le passé, on découvre énormément de choses et ça permet d'avoir une image beaucoup plus claire du comportement de monsieur.
Fanny Collin ?
C'est tout à fait exact ce qui vient d'être dit, c'est ce qu'il faudrait faire dans toutes les enquêtes. Mmh. Mais l'intégration de la notion du consentement dans le texte n'y change strictement rien. Ça n'y change strictement rien.
Aujourd'hui, c'est un défaut, aujourd'hui, dans un certain nombre d'enquêtes, même dans de nombreuses enquêtes, qui est lié à des plaintes de viol. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas suffisamment aujourd'hui.
Ce serait effectivement de manière systématique, mais encore une fois, dans l'intérêt de chacun, que les enquêtes soient fouillées. C'est aussi l'intérêt de celui qui est accusé.
Quelles seront les conséquences, évidemment, du procès des viols de Mazan dans la société française ? On l'a évoqué à l'instant et on les mesurera, évidemment, avec le temps. Mais a-t-on d'ailleurs vraiment changé d'époque dans notre approche collective du viol et dans la condamnation du viol ? Disons qu'on peut quand même un peu l'espérer à regarder notre archive du jour. Celle-ci nous ramène près de 50 ans en arrière.
Est-ce que vous avez déjà eu envie de violer une femme ?
Oui, d'une certaine façon.
Ça m'est arrivé.
Vous avez déjà violé une femme?
Non, je serais incapable de le faire.
Parce que ça m'est pas venu à l'idée.
Sa femme, c'est marrant.
Le viol.
La violer, non, pas de la violer, non. Certainement pas. D'avoir des pensées, faire des choses.
Qui sont les violeurs d'après vous?
Des détraqués, certainement. Des gens refoulés.
Uniquement?
Je pense pas que quelqu'un d'équilibré pense à violer une femme.
Des types en manque?
Oh. Personnes qui sont pas normales.
Alors, Denis Salas, je vous vois réagir, là, rire après cet archive, parce qu'il y a certaines choses vraiment étonnantes.
De l'époque du procès d'Aix-en-Provence.
Oui, en tout cas, c'est 1976, donc c'est avant l'inscription dans la loi. Hein.
Mais au cours du procès d'Aix-en-Provence, où Gisèle Halimi a défendu la cause des femmes, comme vous le savez, il y avait effectivement des micro-trottoirs comme celui-là, et on interrogeait tout un public plutôt masculin qui défendait les accusés, qui étaient.
Et qui crachait sur les victimes.
Et simplement, il ne faut jamais oublier que ces accusés étaient, dans un premier temps, incriminés pour des coups et blessures, des délits, si vous voulez, et que c'est progressivement, grâce à l'action de Gisèle Halimi, qu'en appel, on a criminalisé, on a proclamé comme criminel le viol. Le viol qui était un crime, il ne faut jamais l'oublier, dans le texte pénal, mais qui était, dans ce qu'on pourrait appeler la culture du viol, parmi les magistrats, etc., et puis le public, considéré comme un délit de cause et blessure.
Mais Magali Lafourcade, est-ce que ça montre aussi l'importance de l'éducation des garçons, des pères, des grands-pères, avec des programmes d'éducation sexuelle comme celui qui est attendu, alors qu'il tarde un peu d'ici la fin de l'année?
Et donc on a vu qu'il y avait donc un programme qui visait le consensus, parce que bien sûr, il faut une politique volontariste, des moyens, des actions de prévention, des campagnes d'information, et il faut faire une éducation au consentement dès le plus jeune âge.
– À l'école.
– À l'école, et on a vu que même les cours d'éducation à la vie sexuelle et affective sont un problème, ne sont pas, la loi impose trois cours par an, ce n'est pas appliqué. Le programme qui est proposé avec un énorme consensus de la communauté éducative est critiqué par une émanation de la Manif pour tous, et on voit que la ministre de l'Éducation nationale est déjà en train de reculer, alors que ces groupes-là sont archi minoritaires. Je pense que la société a tellement plus avancé que notre classe politique. On voit aussi que les parlementaires se saisissent de la question du viol.
On l'a vu en tout cas à travers cette archive, effectivement, on a quand même un petit peu progressé collectivement en 48 ans. Ouais. Merci à tous les trois, et on a aussi un petit peu progressé grâce à votre participation à ce débat ce soir. Merci à tous les trois d'être venus échanger sur le plateau de 28 minutes.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.